Peut-on dire, en lisant la Bible, qu'Élisabeth a joué un second rôle en donnant Jean au monde? Peut-on dire que la reine Esther a joué un second rôle en sauvant son peuple du génocide? Peut-on dire qu'Ève, dans la Genèse, joue un second rôle alors qu'Adam, vous le savez, l'appelle la mère de tous les vivants? Dans l'histoire du monde et de l'Église, les figures historiques féminines ne manquent pas. Cette place de la femme est d'autant plus difficilement trouvée, assurée, fixe et stable que ce qui était présenté dans ces communautés non catholiques mais chrétiennes comme une situation d'avenir paisible, comme la paix enfin advenue, eh bien, cette situation, cette place de la femme n'est pas du tout paisible en vérité. Les communautés chrétiennes qui ont accueilli des femmes au ministère de diacre, de prêtre, ou qui s'apprêtent à les accueillir aussi dans le ministère d'évêque, sont toutes aujourd'hui marquées par de terribles divisions qui ne sont pas le fait que d'une mode ou d'un effet de passage, d'une réalité que l'on pourrait parler de singulière, l'accès exclusivement réservé aux hommes pour le ministère ordonné, à une réalité dite équilibrée ou égale en droit, l'accès des hommes et des femmes aux 10 ministères. C'est donc que peut-être qu'il faut précisément ce soir essayer de sortir, entre guillemets, si on peut, de la simple argumentation sexuelle pour la désignation au ministère ordonné. Peut-être faut-il ouvrir à d'autres éléments pour essayer de comprendre la complexité de ces questions qui, du coup, vous allez le voir, vont nous permettre aussi, à travers ce prisme, eh bien, d'engager une discussion sur la place de la femme dans l'Église. C'est peut-être aussi précisément pour montrer que si cette paix qui était voulue par l'accession au ministère d'un certain nombre de femmes dans des communautés non catholiques, eh bien, c'est que la réponse ne trouve pas sa source dans un rapport polémique. C'est sûrement aussi pour entrer dans une dynamique de renouvellement de l'Église que nous devons comprendre et saisir et réfléchir sur la place de la femme dans l'Église. Parce que, peut-être pouvons-nous le dire ce soir avec force, cela ne passera pas par la cléricature, mais par l'intégration, au contraire, généreuse et audacieuse, peut-être même, des dons, des charismes, des talents que chacune des femmes porte en elle, au titre de son baptême, comme tous les hommes portent aussi en eux. Et que finalement, plutôt que de réfléchir à un corps clérical, masculin et féminin, peut-être devrions-nous plus encore et plus encore chaque jour dans l'Église, comprendre ce que chaque baptisé, en vertu de son baptême, peut mettre au service du Christ, de l'Église et de l'humanité, avec humilité, avec vérité, en vérité, et avec un esprit d'obéissance aussi, dans le sens bénédictin, qui est d'écouter la parole et de la mettre en pratique, au cœur précisément d'un monde orgueilleux, mensonger et rebelle. Bref, l'enjeu de cette controverse de ce soir est de savoir si la perspective de l'Église catholique, j'entends, hier et aujourd'hui confrontée à une massive opposition publique de ses choix internes, l'enjeu est de nous poser la question si la perspective de l'Église n'est pas une perspective prophétique pour demain et pour le monde entier. Les questions sont graves parce qu'elles touchent à des matières compliquées, comme l'anthropologie, qui est donc la science de l'humanité, la science de l'homme, anthropos, l'homme dans son être homme et femme, et puis la matière aussi théologique, bien évidemment, pour le sujet qui nous touche ce soir. Il y aurait aussi d'autres considérations d'ordre physique, ou même psychologique à faire. Mais nous voyons, nous le savons, que bien souvent, c'est là que tout est bloqué et que l'on s'arrête précisément à des questions psychologiques ou physiques en disant homme, femme, les deux sexes ont le droit à tout, et donc, puisqu'on bloque là, on ne peut pas aller plus loin, on n'arrive pas à monter dans ces degrés de réflexion.